13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ambline. Comment allez-vous aujourd'hui, ma chère?
Ça va bien, bonjour à tous, bonjour Olivier.
Pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Cela commence par consulter un mail sur le trajet du retour. Cela se termine par répondre à son patron à 2h du matin parce que l'objet de ce mail était urgent. Le droit à la déconnexion, est inscrit dans la loi depuis qu'a été votée la loi travail en 2016. Vous ne le savez peut-être pas, mais les salariés des entreprises de plus de 50 personnes ne sont pas tenus de répondre aux mails de leur hiérarchie pendant les vacances. Certaines entreprises font signer des chartes de bonne conduite, d'autres ne disent rien et les salariés s'adaptent. Pour l'instant, aucune sanction pénale n'est prévue si la loi qui concerne le droit à la connexion n'est pas respectée. Alors comment appliquer ce droit? Est-ce qu'on est trop connecté en fait? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et le 3921, c'est le standard d'Europe 1 pour nous appeler. 3921, alors vous avez le droit d'être connecté pour nous écrire Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Thierry au 3921. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Je vous appelle de Miami.
De Miami?
Et j'ai 55 ans.
D'accord. Et quelle heure est-il à Miami?
Il est 9h du matin.
D'accord. Bon, la journée commence bien avec Europe 1, donc. Vous êtes un blogueur reconnu sur la toile. Votre quotidien, c'était d'être connecté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vos journées ressemblaient à quoi, Thierry, lorsque c'était le cas?
En fait, j'étais connecté vraiment tout le temps, toute la journée quand j'étais réveillé, et la nuit, il suffisait que je me réveille, et immédiatement, je pensais que je devais répondre à des commentaires, donc je regardais des mails. Donc c'était presque continuel, du coup je dormais très mal, oui. J'étais vraiment sur le cul du rasoir en permanence.
Et finalement, vous étiez un blogueur, vous aviez une spécialité, ou finalement vous étiez un explorateur de la toile dans toutes directions?
J'avais en quelque sorte une spécialité, deux spécialités, la littérature et c'est l'influence de la technologie sur l'art en général, sur la politique, sur la philosophie. Donc voilà, c'est ça mon sujet, donc c'est-à-dire que ça couvre absolument tout aujourd'hui, parce que la technologie est partout.
Ouais, ça faisait pas mal de boulot en plus, s'il fallait répondre à tout ça.
Ouais.
Un jour, vous avez ressenti une douleur en pleine nuit, vous avez cru que vous étiez en train de faire un infarctus. Racontez-moi ce qui s'est passé cette nuit-là.
En fait, je me suis réveillé, je devais être 1h30 du matin, et j'étais vraiment mal, j'étais complètement oppressé, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir, et j'ai réveillé ma femme, je lui ai dit, je vais pas bien, elle m'a dit, t'es blême, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé tout de suite le SAMU, qui est venu, et une fois que le SAMU a été là, j'allais mieux, mais ils m'ont quand même conduit à l'hôpital pour faire des examens, bien sûr, je n'avais rien au cœur, et la conclusion assez rapide a été que j'avais fait une crise d'angoisse.
Et est-ce que vous avez relié tout ça à votre activité sur le net, finalement à une hyper-connexion?
Pas tout de suite. En fait, je me suis retrouvé aux urgences, allongé sur le lit des urgences, sous perfusion, etc.
Oui.
Et là, on m'a laissé seul. On m'a dit, attendez, le retour des résultats. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à aller regarder les commentaires sur mon blog.
D'accord.
Et sur mon blog, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est là que j'ai eu que le déclic s'est fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es peut-être en train de mourir et tu vas sur le net regarder ce qu'on dit de toi ou ce qui se passe.
Mmh.
Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est la prise de conscience, elle est postérieure, elle est à ce moment-là, exactement quand j'ai pris mon téléphone, alors que j'aurais mieux fait de faire autre chose.
Le 1er avril 2011, vous avez donc décidé de couper court à toute cette activité sur Internet, et vous avez simplement gardé votre téléphone portable avec l'option SMS. Est-ce que ça s'est bien passé, ce sevrage?
Oui, ça s'est très bien passé. Le plus bizarre, c'est de changer de vie, en fait. C'est comme quand on travaille beaucoup et qu'on s'arrête, hein, on est un peu le bec dans l'eau, on a du mal à retrouver ses repères. Donc les premiers jours, j'ai énormément dormi.
Oui.
Parce que il fallait que je récupère. En fait, j'étais très fatigué. C'est là que je me rends compte que j'avais fait un burn-out. J'étais épuisé, en fait. J'ai dormi. Et après, Après, c'était super bien, parce qu'en fait, j'étais en vacances.
Oui, comme en vacances.
J'étais en vacances.
Mmh. Qu'est-ce que vous alliez chercher dans cette existence parallèle finalement? Parce que moi, quand j'entends des personnes me dire, moi j'ai des amis et qu'ils parlent d'amis numériques, c'est quelque chose qui m'impressionne toujours beaucoup. Vous alliez chercher quoi dans tout ça?
En fait, il faut se replacer dans le cadre du début des fin des années 90, début des années 2000. Moi, je fais partie des gens, on avait l'espoir qu'avec Internet, on allait changer la société, on allait vraiment vivre dans un monde meilleur, plus humaniste, etc. etc. Mm-hmm. Et donc, on bataillait pour ça.
Ouais.
On bataillait, donc on dépensait une énergie folle pour ça, on y croyait. Donc mm-hmm. ça, c'était l'illusion politique, si vous voulez, parce qu'en fait, si on regarde ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et puis, il y a une chose qui est assez particulière, c'est que quand on dit quelque chose sur le net et que des gens réagissent, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, même s'ils réagissent à mal contre nous.
Mm-hmm.
Donc, en fait, on finit par chercher la réaction à tout prix, l'interaction.
Ouais.
Et on devient accro à cette interaction-là.
Mm-hmm.
Donc, le problème, c'est pas Internet en général, c'est vraiment le côté social d'Internet. Et c'est là que c'est illusoire, parce que c'est des interactions souvent qui volent pas très haut. Mais on finit par y être accro. Mmh.
En tout cas, vous l'avez été. On va voir comment s'est passé la suite et le sevrage et comment vous sentez aujourd'hui. Vous restez avec nous, Thierry, le temps de cette pause.
Europe 1. Vous coupez téléphone et ordinateur quand vous êtes à la maison. Vous arrivez à vous déconnecter de votre travail. Au contraire, c'est impossible. Vous témoignez au 3921 et vous pouvez aussi nous écrire en étant connecté, bien sûr, Twitter, hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous témoignez au 39-21. Une vie de plus en plus numérisée et la vie professionnelle qui empiète sur la vie privée à force d'être continuellement connectée. Venez nous raconter et réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Thierry, ex-blogueur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui, à la suite d'un petit problème de santé, a fini par lâcher toutes ses connexions et ne plus que garder son téléphone. Thierry, comment allez-vous aujourd'hui? Je précise avant toute chose, avant que vous répondiez, que vous avez écrit l'ouvrage « J'ai débranché, comment revivre sans Internet après une overdose ». Comment ça va aujourd'hui?
Aujourd'hui, ça va très bien parce que j'ai vraiment pris une énorme distance par rapport aux réseaux sociaux, en fait. Et donc, j'y vais pratiquement plus. C'est assez simple, j'y suis pratiquement plus. J'ai pas coupé mes comptes. Donc, quand quelqu'un m'interpelle, j'y vais, mais pas en direct.
Ça ne vous manque jamais?
Il y a de moins en moins d'interactions. Pardon?
Ça ne vous manque jamais?
Non, absolument jamais. Ça me manque pas. Et en fait, c'est assez facile de perdre l'habitude. Une fois qu'on a compris qu'on perdait du temps et qu'il y avait mieux à faire, bon, on arrête et voilà, parce que c'est pas quelque chose qui est vital dans notre vie.
Mmh. Donc, aucune chance que vous puissiez replonger?
Ça, je ne sais rien. Je pense que s'il y a quelque chose, un combat qui me prend et j'ai envie de me battre pour, peut-être que j'irai passer du temps pour défendre une idée, mais je ne le ferai plus comme avant et si ça se produit, ça sera hyper ponctuel pour quelque chose de précis. Avant, c'était pour tout et pour rien, quoi.
Alors, vous étiez dans la connexion par choix, hein, vous vous intéressiez à tout ça. Que pensez-vous du droit à la déconnexion qui doit être obligatoire dans toute entreprise?
Bon, il me semble que c'est élémentaire. Je ne savais même pas s'il y avait besoin d'une loi pour ça. C'est la loi de. Normalement, on travaille dans les heures de bureau, on n'est pas censé travailler dehors. Mm-hmm. Et en fait, c'est exactement ce qui se produisait pour moi, c'est que j'aurais pu me dire de telle heure à telle heure, tu travailles, tu réagis, puis tu le fais plus en dehors. Mm-hmm. Le problème, c'est nous, quoi. On a tendance à vouloir trop en faire, être toujours présent. Et on s'oublie un peu dans tout ça.
Et pourtant, Thierry, on va voir que ça n'est pas que nous le problème. Ça peut être le problème d'une hiérarchie, d'une entreprise qui peut profiter justement du fait qu'aujourd'hui, ces outils font partie de notre quotidien professionnel et que, bien évidemment, on peut outrepasser le cadre des heures de travail et en profiter et justement pouvoir demander des choses aux personnes avec qui on travaille hors des horaires de travail. Merci en tout cas pour votre témoignage et puis bonne journée à Miami. Dans un instant, et bien maintenant même, on va accueillir Hugo, jeune étudiant qui lui aussi est pas mal branché. Bonjour Hugo, soyez le bienvenu au 3921.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Eh ben moi ça va. Vous avez 18 ans, hein, Hugo, c'est ça?
Oui, c'est exact.
Et combien d'outils numériques vous avez chez vous?
Chez moi, j'ai surtout un téléphone portable et un ordinateur.
Est-ce que vous avez l'impression de passer votre vie derrière votre téléphone et derrière votre ordinateur?
Malheureusement, oui.
Et pourquoi ça alors, dites-moi.
L'ordinateur, c'est un outil de travail. J'écris tous mes cours là-dessus. Du coup, le soir, quand j'ai besoin de travailler, je suis obligé d'être dessus. Pour m'informer, je suis obligé d'utiliser Internet, les réseaux sociaux. C'est une source d'information qui est certes pas très correcte souvent, mais c'est comme une grande source d'information pour faire des recherches ou d'autres choses comme ça.
C'est une source d'information correcte si on va bien chercher hein, sur Internet. Oui. Si on veut trouver le positif et le bon, on peut faire les deux en fait, hein, le bon ou le pas bon. Vous avez appris à vous déconnecter quand même et à trouver quelques astuces pour vous dire à un moment, je lève le pied, je me déconnecte.
Oui, bah j'essaye souvent le week-end ou quand j'ai le temps de faire du sport parce que le sport ça déconnecte beaucoup.
Bien
ou
sûr.
Même de voir mes proches, ma famille, pour profiter de ça. Plus m'occuper de ma vie personnelle que professionnelle.
Vous avez senti, du haut de vos 18 ans, vous, que voilà, ces nouvelles manières de communiquer et c'est finalement toutes ces connexions possibles, ça vous coupait dans la relation réelle, c'est-à-dire voilà, le sport, les amis, aller boire un verre, aller au cinéma et entretenir une relation réelle.
Oui, quand même, parce que à l'époque où il n'y avait pas tous ces moyens de communication tels que le téléphone, des choses comme ça, on était obligé de se voir en vrai pour discuter ou pour échanger quelque chose. Mm-hmm. Alors que maintenant, on peut le faire avec simplement en envoyant un message ou même avec une vidéo Skype ou FaceTime.
Et c'est en réalisant ça que vous avez pensé à vous déconnecter ?
Oui, c'est cela. Exactement. Je le vois, par exemple, c'est souvent quand je pars en vacances ou c'est quand je me déconnecte que je me rends compte qu'il faut que je le fasse plus souvent. Mm-hmm. Que c'est quelque chose d'essentiel, de se reconnecter à la nature, aux choses simples de la vie.
Mmh. Que faites-vous comme étude ?
Je suis en école de commerce à l'ICD.
Mmh. Alors votre métier plus tard vous obligera à être hyper connecté, Hugo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous angoisse ?
Non, parce que je pense que je saurais faire la part des choses entre le travail et la vie personnelle.
Mmh. Et alors, vous qui appartenez à la génération là, qui arrive sur la loi, sur le marché du travail, est-ce que vous pensez que vous pourrez dire à votre employeur plus tard que voilà, il y a un temps pour travailler, pour être connecté, et puis il y a un temps pour déconnecter, justement ?
Bah, je pense que cette loi sera là pour ça. Elle est là pour ça. Elle nous permet de pouvoir dire ça à notre employeur, car ça nous donne le droit de se déconnecter.
En tout cas,
on n'a plus besoin d'avoir peur de le dire.
Mmh. Vous voyez un réel intérêt donc dans cette loi ?
Oui, un grand intérêt. Parce que ça permet de ne pas être pénalisé si on le dit, si on ne le fait pas.
Mmh.
Par exemple, lorsqu'on nous demande de travailler à la maison tard, avant on n'avait pas le droit de dire non, entre guillemets.
Ouais.
Ça pouvait être mal vu, alors que maintenant, vu que c'est inscrit dans la loi, on est autorisé.
On pourra dire non. Merci Hugo pour votre appel et votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous accueillerons Caroline Sauvageol-Rialan. Elle est professeure à Sciences Po et à l'ICD Paris. Et elle est directrice de SoComment et auteure de Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations.
Europe 1.
Nous parlons du droit à la déconnexion cet après-midi. Vous vous êtes fait un point d'honneur à ne pas consulter vos mails. Une fois la porte du bureau fermée, eh bien nous vous écoutons au 3921, 50 centimes la minute. Des outils numériques qui deviennent un véritable fil à la patte des employés. Vous consultez vos mails, vos SMS à la maison, le week-end, pendant les vacances et le droit à la déconnexion. Alors, vous témoignez au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Caroline Sauvageol-Rialan, professeure à Sciences Po Paris, directrice de SoComment et auteure de Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations. Bonjour madame et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Le terme infobésité, que j'entends pour la première fois, hein, pour être très franc avec vous, est entré dans le dictionnaire l'année dernière. Que veut-il dire exactement ?
Alors l'infobésité, c'est le fait de recevoir plus d'informations qu'on ne peut en traiter.
Oui.
Avec un risque qui est que ça nous place dans un état de confusion mentale.
Mmh.
Hein ? C'est un mot valise hein, qui vient d'information et d'obésité. Donc c'est effectivement le fait de recevoir pour un individu plus d'informations et ça le place dans un état qu'il met en difficulté par rapport au fait de prendre des décisions.
Oui.
parce qu'il reçoit trop d'informations et donc il n'est plus en mesure de prendre des décisions. Ou bien s'il prend des décisions, il va les prendre de manière trop tardive. Pourquoi ? Parce qu'il va chercher à s'entourer d'un maximum d'informations avant de se décider. Un autre risque lié à l'infobésité, c'est bien sûr la capacité à innover, parce que l'infobésité nous place dans une situation de confusion mentale. Et donc, on a du mal, effectivement, à se concentrer. En fait, c'est les personnes qui sont interrompues toute la journée, notamment par les mails, et qui n'arrivent plus à se concentrer.
Alors,
et
vous
puis, il y a des risques, évidemment, sur des risques psychosociaux. Hein, Thierry en a parlé. Cette surcharge infocommunicationnelle, c'est quelque chose qui nous place dans une situation de stress. Parce qu'on a la peur de ne pas répondre à toutes les sollicitations qu'on reçoit. Et donc, ça nous met dans une situation qui peut mener, effectivement, à des dysfonctionnements psychiques, à des burn-out, notamment.
Et à une incapacité, sans doute, de bien analyser les choses. Vous accompagnez des organisations dans leur démarche de régulation des outils de communication digitale. Avant de vous demander ce que vous avez remarqué dans la plupart de ces entreprises, j'aimerais savoir comment vous accompagnez ces organisations.
Alors, je les accompagne en menant des diagnostics infocommunicationnels en interne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées de passer au droit à la déconnexion. Bon. Mais, bien évidemment, on ne communique pas de la même façon selon le type d'activité qu'on exerce. Par exemple, une entreprise de BTP ne va pas du tout communiquer de la même façon qu'une entreprise de service qui va fonctionner, vous voyez, à distance. Donc, le but du jeu, c'est de comprendre l'ADN infocommunicationnel de l'organisation. Pour ensuite, et aussi en fonction de ses publics internes, de leur âge, de leur métier notamment, leur proposer des mesures de régulation infocommunicationnelle qui soient parfaitement adaptées à leurs besoins, à leur culture d'entreprise, à leur métier, à leur activité, à leur public interne.
Et dans le cadre...
On ne peut pas faire de copier-coller, ça ne marche pas.
D'accord. Et dans le cadre de cette mission, donc, la déconnexion en fait partie ?
Complètement. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse beaucoup aux organisations qui ont une démarche globale. Si vous voulez, le droit à la déconnexion, aujourd'hui, les entreprises qui veulent, entre guillemets, respecter la lettre de la loi, c'est très simple. Elles mettent à l'ordre du jour de la négociation annuelle le sujet de la régulation des outils numériques. Elles ne parviennent pas à un accord et ensuite, elles signent une charte en trois paragraphes, notamment avec le principe de la non-obligation de réponse en dehors du temps de travail et un principe d'exemplarité des managers à ne pas envoyer des messages en dehors du temps de travail. Très clairement, ça ne sert strictement à rien.
Ce qui veut dire que la loi n'est pas respectée aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait.
Et que faire pour qu'elle soit respectée alors ?
Alors, je pense que la démarche de la loi est intéressante parce que si la finalité de la loi n'est pas respectée aujourd'hui, ça oblige quand même les organisations à poser sur la table cette question de la régulation des outils infocommunicationnels. Et cette question, une fois qu'elle est posée sur la table, ça fait remonter un certain nombre de problèmes, ça fait remonter aussi un certain nombre de pratiques infocommunicationnelles tout à fait non éthiques. Par exemple, des gens qui envoient, des managers qui vont envoyer des mails en attendant une réponse en 2 heures et qui, quand ils n'ont pas cette réponse-là en 1 heure ou en 2 heures, vont faire un SMS et après vont passer un coup de téléphone. Donc la personne de l'autre côté, elle va avoir le mail à traiter de départ, l'appel téléphonique et le SMS. Vous voyez ?
D'accord, je vois.
Il y a des mauvaises pratiques énormes de ce type dans les organisations. Ces pratiques, elles sont passées depuis 20 ans, depuis l'introduction des technologies dans le travail, totalement sous les radars. Les outils de la QVT ne les ont pas pris en compte. C'est totalement sous les radars. C'est sorti, ça a émergé avec le rapport de Bruno Mettling à l'époque. Mais clairement, aujourd'hui, quelques organisations se sont intéressées au sujet et mènent donc des démarches plus globales sur la question de comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on travaille ensemble à l'ère de tous ces nouveaux outils, comment est-ce qu'on utilise ces différents outils, avec, à mon avis, une règle très simple, c'est tous les outils sont utiles. Voilà, l'email n'est pas plus mauvais qu'un réseau social interne. Par contre, il y a un grand principe qui est un outil, une fonctionnalité.
Et respecter les horaires. Caroline Sauvageul-Rialan, professeure à Sciences Po Paris, directrice de SoComment. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Et Hervé témoigne au 39-21, il a 44 ans, il dit « Je suis cadre, je travaille beaucoup, je n'arrive pas à déconnecter car j'ai toujours des dossiers en suspens. Je me rends compte que je travaille tout le temps, le soir, le week-end. »
C'est difficile.
Et même pendant les vacances.
Europe 1.
Vous avez le droit à votre vie personnelle, vous êtes toujours connecté ou alors vous exercez justement ce droit à la déconnexion. On vous écoute au 39 21 50 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Sur Europe 1 cet après-midi, nous parlons du droit à la déconnexion. Les yeux rivés continuellement à la maison sur votre téléphone professionnel. Vous ne pouvez pas vous empêcher de consulter vos mails en vacances. Venez nous raconter au 39-21. A tout de suite avec Olivier Delacroix. Et c'est Michel Berger sur Europe 1 avec la groupie du pianiste. La groupie du pianiste qui passe sa vie à l'attendre. Michel Berger sur Europe 1. Vous passez votre vie personnelle à consulter vos mails, vos SMS professionnels. Êtes-vous trop connecté ou arrivez-vous à tout éteindre une fois arrivé à la maison? Olivier Delacroix vous attend au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Caroline Sauvageal-Rialan, professeure à Sciences Po Paris, directrice de SoComment, et auteur de Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations. Une question sur l'hyperconnexion, Caroline. C'est aussi quelque chose de très psychologique. On a parfois envie de bien faire au travail et donc on répond aux mails tardivement, par exemple. Comment s'en prémunir? Comment s'en protéger? Est-ce que c'est possible de le faire sans perdre son travail?
Alors, je crois que les seules solutions à cet égard sont des solutions collectives. Parce que sur le plan individuel, il est extrêmement compliqué pour un salarié de considérer que lui ne va pas répondre en dehors des heures de travail si toute l'équipe autour de lui y répond. Donc, individuellement, on est très démuni et finalement, on se cale automatiquement sur celui qui va communiquer le plus, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, communiquer le mieux. Donc, je crois que les solutions, elles sont d'abord collectives, c'est-à-dire au niveau de l'organisation, à changer de repère culturel. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement valorisé, c'est la vitesse de la réponse. C'est la joignabilité permanente, c'est effectivement ces normes, ces nouvelles normes de référence qui sont devenues l'immédiateté. Or, l'immédiateté, la vitesse, rime rarement avec qualité. Et donc, je crois qu'il faut revaloriser la capacité de concentration des individus en considérant que finalement, il est plus important que les personnes puissent se concentrer dans la durée plutôt que de répondre toute la journée à des mails de plus en plus pressants. Et ça ne peut passer que par des règles collectives.
On parle là de rééducation, surtout d'une hiérarchie, en tout cas des dirigeants, puisque la pression, elle se fait de ce côté-là. En août dernier, un salarié a réussi à faire valoir son droit à la déconnexion auprès de la justice. Il se sentait lésé de ne pas avoir eu des dédommagements du fait qu'on lui demande d'être d'astreinte. Qu'est-ce qui est inscrit exactement dans la loi ?
Ce qui était inscrit dans la loi, c'est uniquement l'obligation pour les entreprises de négocier annuellement sur la régulation des outils numériques dans le cadre de l'égalité homme-femme. Donc, les entreprises ont uniquement l'obligation de négocier. Mais ce qui est inscrit dans la loi aussi, c'est la finalité de la loi, qui est de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Je pense que la loi est intéressante. Pourquoi ? Parce que ça oblige les organisations à poser le problème à mettre le problème sur la table. Ce qui a en plus un effet secondaire très positif, qui est que notamment les cadres peuvent enfin, du coup, échanger entre eux par rapport à ces problématiques. Les cadres, aujourd'hui, sont extrêmement isolés par rapport à cette question. Les RH, d'une manière très majoritaire en France, considèrent que les gens qui répondent en dehors des heures de travail sont un petit peu des work-alcooliques et que c'est leur responsabilité individuelle, alors que dans un contexte hiérarchique, dans un contexte aussi de marché du travail tendu, il est très très compliqué pour un individu de ne pas répondre aux sollicitations de son manager en dehors des heures de travail.
On va justement parler de ce rendement possible et de la qualité justement de cette relation entre hiérarchie et puis salarié, cadre compris, avec Michel qui est directeur d'une entreprise justement de matériel de dentisterie. Bonjour Michel, soyez le bienvenu au 39-21.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de Comet France, une entreprise de matériel de dentisterie. À partir de quel moment vous avez pris conscience que le bien-être de vos salariés passait aussi par la déconnexion ?
Je pense que le problème, on l'avait pris avant que la loi soit passée sur le droit à la déconnexion, puisqu'effectivement, on avait engagé une démarche avec Caroline Sauvage-Vrillement, notamment parce qu'effectivement, nous sommes rendus compte que la surcharge informationnelle, ça venait surtout du fait que beaucoup de collaborateurs n'ont pas appris à utiliser les nouveaux outils. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde a un smartphone, tout le monde maintenant communique sur Outlook, tout le monde travaille avec différents outils informatiques, mais on n'a pas appris à travailler avec. Et du coup, effectivement, il y a de plus en plus d'informations qui arrivent à droite à gauche. Et le but, c'était effectivement de permettre aux collaborateurs de pouvoir se recentrer sur leurs tâches sans avoir ce stress de se dire j'y arrive pas, on est en permanence connecté, on demande beaucoup de choses. Et voilà, donc on a établi un diagnostic de nos pratiques pour justement voir sur quel thème on pouvait travailler, et ensuite on a mis en place des axes d'amélioration.
Et est-ce que vous avez remarqué que cela a été finalement bénéfique pour l'entreprise et pour la productivité?
Je pense que ça a été très bénéfique parce que les collaborateurs, bon, d'abord, travaillent dans un environnement qui est beaucoup plus calme. On a limité, par exemple, des choses très très simples, l'envoi des mails après 19h et puis le week-end. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'entreprise, il n'y a plus aucun envoi de mails entre 19h et 7h le matin et le week-end. Et je pense que pour les collaborateurs, ça permet aussi de prendre le temps de décompresser. En fait, comme on dit, après chez Comet, il y a une vie après le travail et il faut que savoir faire la part des choses.
On va continuer à parler justement des bienfaits de cette déconnexion avec vous, chef d'entreprise, Michel, parce que c'est très intéressant de voir combien, voilà, quand on a un chef d'entreprise comme vous qui prend conscience de ces choses-là et qui prend surtout conscience que ça ne peut qu'apporter du bien-être à tout le monde, bah, ensuite la productivité, bah, ça va être positif. On se retrouve dans quelques instants, Michel.
Séparation de la vie privée et de la vie professionnelle. Consultez-vous vos mails de travail à toute heure du jour et de la nuit? Au contraire, vous arrivez à déconnecter? Venez nous raconter au 3921. Vous êtes mal à l'aise à l'idée de ne pas répondre aux mails d'un collègue ou de votre patron le soir, à la maison, le week-end, ou au contraire, la déconnexion est pour vous primordiale. Vous êtes avec Olivier Delacroix et on vous attend au 3921.
Et nous sommes toujours avec vous, Michel. Je rappelle que vous êtes directeur d'une entreprise de matériel de dentisterie et que vous évoquez cette réflexion que vous avez eue autour de la déconnexion étant très positive finalement pour le bien de vos employés et puis pour la productivité de votre entreprise. Est-ce que finalement, ce qui vous a poussé à avoir cette réflexion, ce sont des alertes venues de vos salariés?
Alors, ce ne sont pas des alertes, puisque nous, on avait pris le problème avant, justement, parce que le but était d'avoir une prise de conscience. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on avait fait un diagnostic qui nous a permis de voir qu'il n'y avait pas vraiment d'alerte, mais que ça pourrait arriver. Donc, le but, c'était aussi de former tous nos directeurs. Donc, on a fait des formations donc, par rapport à ce projet. Oui. Et ça a permis ensuite d'avoir vraiment une exemplarité, parce que l'exemplarité, elle doit passer par le management. Mm-hmm. Et ça a aussi un effet indirect, c'est l'attractivité pour l'entreprise. Parce que on est une PME, effectivement, la marque employeur chez nous, elle est importante parce qu'on n'a pas la notoriété d'une grande entreprise, et pour attirer des talents, ça fait aussi partie du package, on va dire, puisqu'effectivement, la qualité de vie au travail...
Vous entendez par là que ça fait partie d'une démarche marketing ou...
Pas marketing, mais plutôt une démarche d'attractivité pour le collaborateur. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, la qualité de vie au travail est très importante, puisqu'un collaborateur qui est dans une bonne ambiance de travail, un bon environnement, oui, sera un collaborateur qui va pouvoir s'épanouir et donc forcément apporter un plus, puisqu'on est une société essentiellement commerciale, un plus au niveau du client et du service qu'il peut lui apporter.
Et comment ça se traduit tout ça concrètement dans le travail de tous les jours? Quelles sont les mesures que vous avez prises?
Alors, il y a eu des mesures qui ont été de voir un petit peu tous les thèmes qu'on pouvait améliorer, c'est-à-dire déjà la dépendance aux médias, comme on disait, désactiver des alertes sonores, parce qu'effectivement, comme disait Caroline Sauvageol-Rialan, c'est extrêmement perturbant pour soi et puis pour les autres collaborateurs. C'est se réserver des demi-journées, c'est ne pas créer de sentiment d'urgence, c'est-à-dire laisser aux collaborateurs le temps de répondre aux messages, de ne pas être dans l'immédiateté, ça c'est très important, de favoriser aussi les échanges directs, plutôt travailler avec le face-face, le téléphone, plutôt que le mail, oui. Quand c'est possible. Donc, quand il y a une relation qui est directe, ben, il faut aller voir les gens, plutôt que d'envoyer un mail de bureau à bureau. Ça paraît une évidence, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas dans beaucoup d'entreprises. C'est aussi penser au destinataire à qui on envoie un message, c'est-à-dire s'assurer de l'adéquation entre le niveau de compréhension du message et le destinataire. Donc utiliser aussi des fonctions comme les copies à d'autres personnes, copies cachées, etc. Limiter ce genre de choses. C'est tout un tas de mesures qui ont été mises en place. Mais j'insiste beaucoup, c'est sur la formation au départ du management, parce que si effectivement au départ il n'y a pas une impulsion de la direction, ça ne peut pas marcher. Comme disait Caroline, effectivement, si c'est juste inscrire dans une charte le fait qu'on va limiter le droit à la déconnexion, la surcharge informationnelle, je veux dire, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment que ça soit une démarche où le management est impliqué.
Et vous, justement, en tant que patron, est-ce que vous avez pu obtenir des chiffres sur les bénéfices que cela peut avoir pour les chiffres, le chiffre d'affaires de votre entreprise ? Est-ce que vous l'avez ressenti ?
Alors, je pense que faut pas. Enfin, j'ai pas cherché à mesurer l'impact sur le chiffre d'affaires. J'ai voulu mesurer l'impact sur les collaborateurs parce que je suis intimement persuadé qu'ensuite, effectivement, le chiffre d'affaires, il suit obligatoirement. Ouais. Donc l'intérêt surtout, c'était de se focaliser sur les collaborateurs et de faire en sorte que les collaborateurs, entre guillemets, arrivent le matin avec la banane.
Mmh. Ça se sent tout de suite quand les collaborateurs arrivent avec la banane le matin.
Ah ben, ça se sent tout de suite parce que d'abord on a eu effectivement l'année d'après, on s'est dit des choses, on a obtenu le prix Happy at Work de la troisième entreprise de moins de 250 salariés où il faut être bon vivre, hein, c'est un prix qui a été décerné au niveau de l'entreprise. Donc je pense que ça fait partie des mesures, le droit à la déconnexion. Et on a aussi fait des questionnaires, on a questionné tous les salariés pour savoir entre guillemets, tout ce qui avait été accompli depuis, et puis leurs attentes aussi, les attentes en termes de régulation, les attentes, le ressenti qu'ils avaient au niveau de la surcharge informationnelle, et on s'est aperçu qu'effectivement, on était dans une très bonne dynamique.
En tout cas, chez Comet France, dont vous êtes le directeur, l'ambiance paraît être au beau fixe. Toutes mes félicitations, Michel, et merci pour votre témoignage. Nous accueillons maintenant Morgane. Après cette petite pause.
Arrivez-vous à lâcher votre téléphone, votre ordinateur, on parle de la déconnexion. Olivier Delacroix vous écoute et vous composez le 3921. Des outils de connexion de plus en plus efficaces pour travailler, mais peut-être un petit peu trop intrusifs. Le droit à la déconnexion, l'exercez-vous le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Et voici Nadine Leroy qui s'empare de So Far Away From LA.
Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow.
Extrait de son nouvel album Folk, un disque de reprise. Nolwenn Leroy a chanté So Far Away From LA de Nicolas Perrac sur Europe 1. Nous parlons du droit à la déconnexion, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Nous sommes maintenant en ligne avec Morgane. Bonjour Morgane, soyez bien la bienvenue au 3921.
Bonjour et merci.
Bonjour. Alors, vous êtes en pleine prise de conscience d'être trop connecté dans votre travail. Cette prise de conscience, elle vient suite à quoi exactement ?
Ben, juste pour resituer un petit peu le cadre et je recompare avec l'interlocuteur précédent, c'est que on est un peu près dans la même situation et en même temps on est très différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis dans la distribution de produits alimentaires, je reprends petit à petit en fait une société de mes parents familiale, oui, et oui. Donc j'ai une trentaine d'années, mes parents s'apprêtent à partir à la retraite et donc je vous laisse imaginer, j'ai un très gros challenge à relever.
À relever, ouais.
Et à relever. Donc, une trentaine d'années, je suis connecté depuis tout jeune. Donc, quelque part, j'ai apporté à la société, on va dire, tous les outils pour lui permettre d'être connecté, d'être, et moi aussi me faciliter la vie et au final, d'être plus branché aux commandes des clients, d'être beaucoup plus réactif, d'avoir une connexion bureau à distance ou ce genre de choses-là. Mmh. Au final, quand on est dans une TPE, c'est ce qu'on est aujourd'hui, et qu'on n'est pas beaucoup dans cette TPE, et on est, dans, on va dire, sur tous les domaines, aussi bien l'opérationnel, l'administratif, l'achat, la vente, le commerce.
Et justement, justement, quel effet pervers l'a-t-il produit dans votre activité ?
L'effet pervers, c'est qu'aujourd'hui, mes journées commencent très tôt, et même à la maison, du coup, comme j'ai tout, elles finissent très tard.
Quelle heure ?
Ça dépend. En fait, il n'y a pas d'heure. Et c'est en ça qu'il y a quelques jours, justement, c'est pour ça que j'ai souhaité vous appeler juste pour témoigner. Je me suis fait la réflexion parce que je parlais avec quelqu'un et j'ai dit mais c'est dingue parce qu'au final, qu'il soit 21h ou 22h, si j'ai un SMS ou n'importe quoi d'un client, je vais essayer d'être le plus réactif possible parce que je me dis le client, il a besoin de ma réactivité, il saura l'apprécier.
Vous êtes en pleine prise de conscience que ça, c'est en train de vous manger totalement la vie.
C'est en train de me bouffer la vie et en même temps, je le veux, je le décide, je le veux, mais tout à l'heure, il y avait une de vos interlocutrices qui parlait d'infobésité, Caroline, je ne me souviens plus, et en fait, je suis complètement absent le reste du temps.
Morgane, est-ce que c'est vous-même qui en avez pris conscience tout seul ou est-ce que votre entourage, à un moment, vous a dit « attention ».
Non, c'est moi. Mais c'est quand Caroline, elle a parlé de ça tout à l'heure. Je suis complètement absent quand on parle à la maison et dès que ça sort du domaine professionnel. Mmh. Et ma copine, elle me le reproche tous les jours. Elle m'a dit, mais t'écoutes ce que je te dis, mais parce que je fais une surcharge d'informations, une surcharge de mon téléphone. Il peut avoir des coups de fil tous les 4 minutes la journée parce que je gère l'opérationnel, les chauffeurs sur la route, les clients qui vont appeler. Et en fait, il y a un moment où il y a une surcharge, une overdose d'informations. Et j'en suis conscient.
En tout cas,
est-ce que j'ai le droit de faire abstraction de ça tout de suite, sachant que je suis en pleine transition dans ma vie.
Et vous êtes à un moment, je dirais, vraiment crucial de cette reprise d'activité. D'abord, je vous souhaite bonne chance pour le futur et pour cette nouvelle entreprise. Et puis, surtout, j'ai envie de vous dire que c'est important, Morgane, que vous ayez pris conscience qu'il fallait lever le pied. Donc, merci pour votre témoignage. Merci à Thierry, à Hugo, à Caroline Sauvageol-Rialan et à Michel de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission dans une société où l'on peut être aujourd'hui en permanence connecté à son travail. On l'a vu, il est important de se protéger et de savoir lâcher prise à certains moments pour ne pas exploser en plein vol, comme vient de nous le dire Morgane. Et puis aussi d'avoir, comme nous l'a souligné Michel, une hiérarchie qui fait attention à ses salariés et puis à bien leur dire qu'il faut déconnecter un moment. Vous pouvez bien évidemment continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Et tout au long du week-end, n'hésitez pas à apporter votre témoignage puisque tous les sujets vivent grâce à vous une seconde existence sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble du handicap au travail, problèmes d'accessibilité, mauvaise compréhension des maladies et accompagnement défaillant. Les personnes en situation handicap sont confrontées à de nombreuses problématiques au travail. Et si vous êtes surdiplômé mais qu'à cause de votre handicap, vous ne trouvez pas de travail, si vous souffrez du manque d'accessibilité au travail, si vous avez réussi à avoir un emploi et que cela se passe très bien, appelez-nous au 39 21 pour nous parler de votre histoire. Nous serons ravis de vous écouter. Ma chère Ambline, j'ai été ravi de passer cette heure à vos côtés. Chers amis auditeurs, j'ai passé une excellente semaine en votre compagnie. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours plus nombreux chaque jour à être au rendez-vous. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier à l'éditorial, à Jean-François Bussière à la réalisation et à vous aussi, ma chère Ambline, de m'accompagner si agréablement toute la semaine. Chers auditeurs, je vous laisse maintenant avec ma copine Laurence Boccolini sur Europe 1, où on va, comme d'habitude, tous les jours se marrer.
Se marrer avec Jules.
Mais
oui, parce qu'il y a un cowboy à Paris. Lucky Luke qui sort. On va parler Lucky Luke tout le temps.
Une bonne émission, les filles, et à lundi, un bon week-end.
Bon week-end à toi.
Tout de suite avec Laurence Boccolini sur Europe 1.
Europe 1.